Chapitre 29e. Trois jours plus tard, j'annonçai à Rouget que je partais le soir même. Il dut se rendre compte que j'étais fermement décidé, car contre son habitude, il n'essayait pas de me dissuader. Il changea de conversation. Une heure plus tard, cependant, il me dit qu'il partait avec moi. Une longue discussion s'éleva entre nous. Il voulait prendre le train, tout simplement. Comme je lui demandais ce que nous ferions à la frontière, il me répondit qu'on le verrait bien à ce moment. C'était incroyable. Je lui énumérai les raisons qui, selon moi, nous empêchaient de prendre le train. Rien ne m'effrayait autant que ces gens qui comptent sur leur présence d'esprit ou sur leur faculté de se débrouiller et qui nous racontent qu'au moment où on leur a demandé leurs papiers, ils ont échappé à la police en profitant d'une bousculade. Il fallait partir à pied. Je précisai que nous ne devions pas attendre la nuit, car nous risquions de tomber sur des patrouilles. Enfin, je tenais absolument à ce que nous changions les vêtements de M. Rouget contre d'autres moins excentriques. On rencontrait bien, depuis la guerre, des gens n'ayant rien à se reprocher, vêtus d'étranges façons, mais quant à nous, ce n'était pas la même chose. Le jour du départ fut le plus dur. Nous avions fait une dizaine de kilomètres lorsque Rouget, victime soudain d'une grande dépression, voulut à toute force retourner chez Mademoiselle Perrotin. Je lui dis que c'était ridicule de nous exposer inutilement puisqu'il faudrait de toute façon que nous repartions un jour et que puisque c'était fait, autant en profiter. Mais il s'entêta. Plusieurs fois déjà, depuis la guerre, je m'étais trouvé dans des situations analogues où, pour une satisfaction immédiate, certains de mes camarades avaient sacrifié des avantages péniblement acquis. Pendant plus d'une heure, je dus lutter pied à pied avec Rouget pour l'empêcher de suivre son idée. Finalement, il convint que j'avais raison. Nous marchâmes pendant 2 jours. Nous étions tellement abrutis par la guerre que de loin, une charrette avec les brancards en l'air nous faisait penser à un canon. Nous arrivâmes en France. Notre fatigue était telle que cet événement pour lequel nous avions couru tant de dangers ne nous frappa pas. Je m'écriai cependant que nous étions sauvés. Rouget, lui, était complètement indifférent. Il faut dire que rien n'était changé, à part les lettres des indications routières qui étaient enfin droites et nettes. La campagne se déroulait avec la même monotonie. Nous n'osions pas nous approcher davantage des maisons. Je m'écriai cependant quand j'en apercevais une dans la plaine et dire que ce sont des Français qui habitent là. Et quand c'était une simple silhouette, c'est un Français, c'est une Française. Je croyais que partout j'allais trouver des gens prêts à nous aider, qui allaient tout de suite reconnaître que nous étions des leurs, mettre leur maison à notre disposition. Mais comment approcher? Rouget m'en empêchait chaque fois. C'était lui maintenant qui me trouvait imprudent. J'étais un enfant de m'imaginer que les gens étaient meilleurs, du seul fait de se trouver de l'autre côté d'une frontière. La 4e nuit, nous couchâmes dans un hangar métallique qui servait d'entrepôt à des balles de paille compressées. J'avais demandé la permission à la propriétaire. Elle me l'avait accordée sans me poser la moindre question, car les vagabonds habituels ne se donnaient pas cette peine. J'avais espéré que le récit de nos aventures l'aurait amenée à nous offrir l'hospitalité chez elle, mais il n'en avait rien été. Elle avait surtout été préoccupée de nous faire la recommandation de ne pas fumer. Nous nous installâmes dans un coin, tout en haut d'une pile. Ces balles étaient aussi dures que du bois. Je pris mon couteau et sciai le ruban de fer blanc qui les entourait. On s'en apercevrait après notre départ. C'était bien mal répondre à la gentillesse qui nous était faite. Mais nous ne nous considérions tenus par rien. Nous brassâmes cette paille, puis nous examinâmes les lieux. En sautant par derrière, nous pouvions nous échapper à travers le potager. Depuis notre arrivée en France, au lieu de la sécurité que nous avions escomptée, nous constations que le danger n'avait fait que grandir à cause des troupes d'occupation cantonnées partout. Bien que j'eusse dit que nous étions des prisonniers évadés, j'avais l'impression que la propriétaire ne m'avait pas compris et que si des Allemands étaient venus nous chercher, elle les eût conduits sans remords à nous. Nous nous cachions donc inutilement. J'en fis part à Rouget. Il me répondit que puisqu'on nous avait dit de monter ici, c'est qu'on voulait bien nous cacher. Nous nous allongeâmes. J'aurais voulu revoir la propriétaire de la fabrique de paillons pour lui répéter que nous étions vraiment à sa merci et qu'il ne fallait bien entendu dire à personne que nous étions là. mais Rouget m'en empêcha, prétendant qu'elle allait nous faire partir. Il ajouta que les gens font beaucoup plus pour leurs semblables, quand ils peuvent ignorer de quoi il s'agit, qu'il ne faut jamais rien préciser, sans quoi ils prennent peur. Il faisait encore jour. Sur les traverses métalliques du hangar, des pigeons maladroits, qui se frappaient le corps de leurs ailes, étaient réunis. Ils allaient et venaient à petits pas. De temps en temps, l'un d'eux s'envolait pour se poser un peu plus loin, et il se donnait beaucoup de mal pour tenir l'air sur une si courte distance. L'affaire maintenant était silencieuse. La nuit tombait lentement. Sur la plaine immense, que nous apercevions de façon assez inattendue entre deux balles de paille, le soleil couchant répandait ses lueurs rouges sur la nappe de brume qui montait du sol. Et ce qui me frappait, c'était que, comme il arrive souvent dans les grands effets de lumière de la nature, celui-ci était d'une symétrie parfaite. La ligne de contact du soleil et de la brume, d'un bout de l'horizon à l'autre, était une droite absolument parfaite, sans un fléchissement, sans une encoche. Soudain, nous entendîmes crier. On nous appelait. Instinctivement, je posai une main sur la bouche de Rouget pour l'empêcher de répondre. Il l'écarta en me demandant ce que j'avais. C'était peut-être les Allemands. Je me mis à ramper jusqu'à l'endroit d'où l'on surplombait la cour. Aucun Allemand ne se trouvait là. J'aperçus la propriétaire. Je répondis que nous descendions. Nous entrâmes dans la cuisine. Il y avait là un chevreau adorable, qui semblait chez lui comme un chien ou un chat. Il vint me lécher les mains, puis mordiller mes lacets et le bas de mon pantalon. Je le repoussai doucement, mais il revenait sans cesse avec une insistance d'autant plus amusante qu'il n'avait aucune raison de s'en prendre à moi plus qu'à Rouget. On nous offrit une tasse de lait de chèvre, justement. Puis le mari de la propriétaire parut dans l'embrasure d'une porte. Il nous regarda avec méfiance. Je sentis qu'il se demandait si nous n'avions pas menti, si nous étions vraiment des évadés, si nous n'allions pas ensuite le dénoncer. Enfin, quand il se fut débarrassé de cette incompréhensible méfiance, il nous demanda si, par hasard, nous ne connaissions pas son frère également prisonnier. Nous bavardâmes ainsi de plus en plus cordialement. Puis il nous dit qu'il serait très heureux de faire quelque chose pour nous. Il nous demandait seulement, si par hasard les Allemands se présentaient, de dire que nous nous étions introduits dans son hangar à son insu. Pour bien nous faire comprendre qu'il ignorait que nous étions sous son toit, il nous serra longuement la main quand nous le quittâmes, comme on le fait quand on ne se reverra pas le matin, et il nous dit « Bonne chance et bonne route », alors que nous ne nous étions pas encore couchés. Je dormais depuis longtemps, lorsque j'entendis de nouveau appeler. Je crus que nous étions perdus. Je me dressai, sans savoir où j'étais ni quoi faire. « Descendez, descendez !» criait la propriétaire. Je réveillai Rouget. « Nous sommes pris, » lui dis-je. « Descendez, descendez !» criait-on toujours. J'apercevais juste la lumière que faisait à 50 pas l'embrasure de la porte de la cuisine. « Est-ce que nous pouvons descendre ?» demandai-je sans savoir ce que je disais. Je compris alors que je m'étais affolé pour rien. Nous obéîmes. Nous eûmes la surprise de trouver en notre hôte un homme tout à fait différent. Il tenait à présent absolument à ce que nous couchions chez lui. Que s'était-il passé? Je vis un cartel qu'il était minuit. Je vis aussi que le feu brûlait toujours. Le chevreau était couché, la tête droite, ses pattes fragiles repliées, avec un air d'enfant turbulent pris tout à coup par le sommeil. Nous allâmes chercher nos affaires. Au fond, cette invitation ne me faisait plus tellement plaisir. Quand le premier sommeil est passé, l'attrait d'une bonne chambre n'est plus aussi grand. Mais Rouget, lui, se réjouissait autant que si nous n'avions pas dormi une minute. Le lit était ouvert à notre intention. Nous nous couchâmes. Longtemps, je me demandais ce qui avait bien pu se passer dans l'esprit du propriétaire. Avait-il eu conscience de n'avoir pas fait assez pour des prisonniers évadés? À la suite d'un long débat intérieur, avait-il eu un remords? Je me dis que de toute façon c'était un brave homme, mais comme il arrive souvent aux gens qui agissent avec le sentiment de nous faire du bien, il n'avait pas songé une seconde à nous épargner une forte émotion. Ce réveil dans la nuit me faisait encore trembler par moments, mais j'étais en France, bientôt je serais à Paris, ma ville natale, j'étais sauvé, du moins je le croyais. Ainsi s'achève Départ dans la nuit, d'Emmanuel Bove.